Bienvenue dans Hacker News Daily sur Brie Radio, je suis Claire Martin et aujourd'hui, un épisode particulièrement riche, la politique, les prouesses techniques et même le règne animal sur nos écrans.
Et moi, Nicolas Moreau, au programme entre autres, une grosse session d'outils d'IA qui a défrayé la chronique sur X, une promotion chez Anthropic et une mouche en 3D qui promet d'habiter votre bureau macOS.
On parlera aussi d'un article qui suggère que la Norvège devrait tout simplement racheter OpenAI et d'un segment sur la programmation de bases de données qui fait réfléchir, sans oublier un tour d'actualité côté Apple et Meta.
Encore un bel aperçu. On démarre tout de suite.
Un utilisateur raconte sur X avoir passé environ 4 heures d'une session Cloud Code à donner un pilote macOS natif à son imprimante HP Laser 1008A, un modèle qu'il présente comme uniquement pris en charge sous Windows. L'imprimante est en réalité une Samsung rebadgée, host-based, qui parle le langage raster propriétaire SPL3, sans aucun pilote Mac ni AirPrint. D'après son récit, la session menée avec Cloud Code Opus 4 août a vu Cups détecter l'appareil comme une HP Laser 1003-1008, un pilote PCL générique resté bloqué, puis l'agent déchiffrer le langage d'impression en lisant les pages d'erreur de l'imprimante, contourner le sandbox USB de macOS, exécuter le codec Raster to Upload d'HP dans un conteneur Linux pour produire du véritable SPL3 et mettre en place un démon persistant. Le dépôt GitHub associé propose un installateur en une commande sous licence MIT. Les commentaires Hacker News discutent surtout de la méthode, plusieurs comptent à Rockstar le récit, certains affirment que l'agent n'a pas écrit de pilote mais utilisé un pilote Linux existant ou les drivers ULD d'HP, d'autres relèvent que le coût en token n'est indiqué nulle part, un participant évaluant son propre projet comparable mené avec DS Flash et GPT-5.6 Sol à environ 2 à 3 $.
Et la transcription de la session, publiée sur GitHub avec un installateur en une commande sous licence MIT, montre un agent Cloud Code Opus 4 août, en contexte d'un million de jetons, qui selon le récit, déchiffre le langage d'impression en lisant les pages d'erreur de l'imprimante, contourne le carcan USB de macOS et exécute le codec d'impression d'HP dans un conteneur Linux pour produire de véritables données raster, le tout au sein d'un démon qui tient les redémarrages.
Sur Hacker News, la méthode fait débat. Plusieurs commentateurs affirment que l'agent n'a en réalité rien écrit de neuf. Il aurait simplement réutilisé un pilote Linux déjà existant pour cette imprimante, voire les pilotes unifiés d'HP qui parlent déjà le langage Samsung, et qu'aucune IA n'était nécessaire pour ça.
Certains relèvent aussi que le coût en jetons n'est jamais indiqué, ni dans le poste, ni dans le dépôt. Un participant évalue d'ailleurs son propre projet comparable, mené avec d'autres modèles, à environ 2 à 3 $. Autrement dit, la prouesse impressionnante se confronte à une vraie question. Que revient-il à l'agent et que revient-il au pilote open source déjà en circulation?
Anthropic a publié une mise à jour de son centre d'aide annonçant une promotion à durée limitée qui augmente de 50% les limites d'utilisation hebdomadaire de Cloud Code. Initialement prévue du 13 mai au 19 août 2026, la promotion a été prolongée et court désormais jusqu'au 19 août 2026 à 23h59 PT. Elle s'applique aux formules Pro, Max et Team, ainsi qu'aux sièges hérités des plans Enterprise, tandis que les plans gratuits et les sièges Enterprise à consommation ne sont pas inclus. L'augmentation ne concerne que Cloud Code, partout où il est utilisé, CLI, extension IDE, bureau et web compris. Les limites des autres produits Cloud restent inchangées, de même que la limite de 5 heures. Aucune action n'est requise, et après le 19 août, les limites hebdomadaires reviennent au niveau standard, sans changement de forfait ni de facturation. Sur Hacker News, certains commentateurs relient cette annonce à des pannes du jour, estimant que des utilisateurs se précipitent à tort ou non, tandis que d'autres rappellent que les limites reviendront à leur niveau d'avant la promotion. Le fil donne aussi lieu à des comparaisons de modèles, certains jugeant Claude Opus et Fable très inférieurs à GPT-5.6 Sol, avec un client de bureau pire et une valeur moindre, l'un affirmant qu'Anthropic semble limiter le calcul au fil de l'utilisation sur Max jusqu'à ce que le service cesse de fonctionner.
Oui, et elle a même été prolongée. Initialement prévue de mai à août, elle court désormais jusqu'au 19 août 2026. Elle concerne les formules Pro, Max et Team, ainsi que les sièges hérités des plans Enterprise. Les plans gratuits et les sièges Enterprise à consommation sont exclus.
Surtout, l'augmentation ne touche que Cloud Code, partout où il est utilisé, ligne de commande, extension d'éditeur, bureau et web. Les limites des autres produits Cloud restent inchangées, tout comme la limite de 5 heures. Et aucune action n'est requise de la part des utilisateurs. Après le 19 août, les limites reviendront simplement à leur niveau standard.
Sur Hacker News, plusieurs liens sont faits avec des pannes récentes. Un commentateur note que des utilisateurs se précipitent pour en profiter, à tort ou à raison, tandis qu'un autre avoue avoir oublié l'annonce et comprendre enfin pourquoi Cloud Code semblait si généreux ces derniers mois. D'autres encore rappellent que les limites finiront par revenir à leur niveau d'avant la promotion.
Le fil glisse aussi vers des comparaisons de modèles. Un participant juge Claude Opus très inférieur à GPT 5.6 Sol, avec un client bureau moins bon et une valeur moindre, affirmant qu'OpenAI multiplie les remises. Un autre abonde en disant qu'Anthropic semble rationner le calcul au fil de l'utilisation sur Max, jusqu'à ce que le service cesse de répondre. Au-delà de la promotion, c'est donc bien la question des limites réelles des forfaits qui ressurgit. Un dépôt GitHub un peu fou met en scène une mouche à fruits 3D qui vit sur le bureau macOS, piloté par une simulation de pointe en direct du connectome réel de la mouche, l'Atlas Flywire. D'après le README, elle marche sur les fenêtres, se toilette, dort et décide de fuir le curseur avec les mêmes neurones qu'une vraie mouche. Une fenêtre montre le cerveau avec 23 210 positions de soma de neurones réels issus de la version V783 de Flywire, colorée par Superclass, les pointes s'allumant aux emplacements réels des neurones, deux marqueurs jaunes correspondant aux Jan Fibers, et un clic permettant de stimuler une région. Le README précise ce qui est réel, un circuit de 668 neurones et environ 19 000 connexions synaptiques réelles, signées par des prédictions de neurotransmetteurs simulées en 1 kHz en modèle Leakey Integrate Enfire. Il comprend notamment des neurones de détection d'approche, des neurones de direction, de marche avant, de toilettage, de marche arrière, des neurones d'aile d'évasion, plus leurs 330 partenaires les plus forts, dont des neurones proprioceptifs et sensoriels devant. L'échappement n'est pas scénarisé. L'approche du curseur devient une entrée looming pour les neurones de détection, et la mouche ne décolle que lorsque la Giant Fiber émet un potentiel d'action via ses synapses réelles, environ 1200 synapses d'inhibition feed-forward, expliquant la dynamique.
D'après le projet, elle marche sur les fenêtres, se toilette, dort et décide de fuir le curseur en utilisant les mêmes neurones qu'une vraie mouche. Il y a même une fenêtre qui montre le cerveau, plus de 23 000 positions de neurones réels issues de la version 783 de Flywire, colorée par type, les signaux s'allumant aux emplacements réels des neurones, avec deux marqueurs jaunes pour les neurones de commande de l'échappement.
Ce qui est réel tient à la simulation. Un circuit de 668 neurones et environ 19 000 connexions synaptiques réelles, simulées à 1000 Hz avec un modèle d'intégration et de déclenchement. On y retrouve les neurones de détection d'approche, les neurones de mouvement avant et arrière, de toilettage, et les neurones d'aile qui déclenchent l'envol.
Et justement, l'échappement n'est pas scénarisé. L'approche du curseur devient un signal d'approche pour les détecteurs, et la mouche ne décolle que lorsque le neurone de commande de fuite émet réellement un potentiel d'action à travers ses synapses authentiques. Environ 1200 synapses d'inhibition en amont expliquent le déclenchement. Bref, c'est un minuscule cerveau de mouche entier qui tourne sur votre bureau. Une vraie miniature de circuit vivant.
Un essai publié dans la newsletter 1000 Means, présenté comme un journal de socialisme progressiste, avance une idée pour le moins audacieuse. La Norvège devrait acheter OpenAI. L'auteur, Zachary Jones, estime que les capacités de l'IA progressent plus vite que la réponse institutionnelle et qu'une technologie transformatrice va entrer en collision avec l'économie politique capitaliste, menaçant la survie, l'autonomie et l'ordre démocratique, avec un risque de concentration du pouvoir et de la richesse. Il affirme que les modèles de langage sont des œuvres dérivées de l'effort collectif, entraînés sur des textes, images et codes extraits d'Internet et d'archives numérisées, et bâtis sur des infrastructures financées publiquement, de la recherche DARPA aux universités et jeux de données publiques. Il qualifie la situation d'enclosure des communs et juge que les entreprises d'IA ont résisté aux pressions pour respecter les normes de sécurité. Sa proposition, le Government Pension Fund Global norvégien devrait acheter OpenAI et le gérer au bénéfice de la communauté internationale, citant une valorisation du fonds de plus de 2 000 milliards de dollars et une valorisation d'OpenAI autour de 800 milliards, et rappelant que OpenAI était anciennement une organisation à but non lucratif.
L'auteur Zachary Jones part d'un constat simple. Les capacités de l'IA progressent plus vite que la réponse institutionnelle et une technologie transformatrice va entrer en collision avec l'économie politique capitaliste, menaçant la survie, l'autonomie et l'ordre démocratique, avec un risque de concentration du pouvoir et de la richesse entre les mains des propriétaires des systèmes d'IA.
Il défend l'idée que les modèles de langage sont des œuvres dérivées de l'effort collectif, entraînées sur des textes, images et codes tirés d'Internet et d'archives numérisées, et bâti sur des infrastructures financées publiquement, de la recherche DARPA sur les réseaux de neurones jusqu'aux universités publiques et aux jeux de données publiques. Il parle d'une « enclosure des communs », comparable à la privatisation de terres communes.
Sa proposition, le fonds souverain norvégien, qui pèse plus de 2 000 milliards de dollars, devrait acheter OpenAI, valorisé autour de 800 milliards, et le gérer au bénéfice de la communauté internationale. Il rappelle au passage qu'OpenAI était autrefois une organisation à but non lucratif, ce qui rend l'idée moins saugrenue qu'elle n'y paraît et inscrit sa proposition dans cette longue tradition de social-démocratie que la newsletter revendique dans son sous-titre.
Le Phil Hacker News Rethinking Database Programming renvoie à un article du blog d'Acadia, un studio danois qui se targue de tout fabriquer à la main à 100%, compilateur et documentation compris. Selon celui qui a soumis le Phil, l'article présente un nouveau langage de requête fonctionnelle pour PostgreSQL et SQLite, créé par Evan Chaplicky, l'auteur d'Helm. Dans la discussion, une grande partie oppose ce langage à SQL. Un participant demande, avec ironie, si l'outil transforme une requête SQL d'une ligne en 6 lignes de code à peine lisibles. Ce à quoi un autre répond que c'est le prix à payer pour transformer une requête SQL cauchemar de 600 lignes en 60 lignes de code à peine lisibles. Un participant voudrait voir un tel exemple, se dit favorable à l'amélioration de SQL mais estime que la syntaxe présentée ne règle même pas le problème de la virgule pendante, tandis qu'un autre préfère garder les 600 lignes de SQL pourvu que la requête ne soit pas construite dynamiquement. Le débat s'élargit à SQL lui-même, certains le jugeant horrible et prêt à programmer dans un langage composable comme Helm, d'autres rappelant avec ironie qu'Evan a retiré Group By, tandis que plusieurs distinguent SQL comme langage de programmation procédurale.
Accueil plutôt chaleureux. Un commentateur dit aimer Helm et avoir hâte d'utiliser le projet davantage. Mais une grande partie de la discussion oppose ce langage à SQL, avec ironie. Un participant demande s'il est capable de transformer une requête SQL d'une ligne en 6 lignes de code à peine lisibles. Et un autre répond que c'est le prix à payer pour pouvoir transformer une requête SQL cauchemar de 600 lignes en 60 lignes tout aussi peu lisibles.
Un autre voudrait bien voir un tel exemple, se dit favorable à l'amélioration de SQL, mais estime que la syntaxe présentée ne règle même pas le problème d'une virgule pendante dans l'exemple. Certains préfèrent garder leurs 600 lignes de SQL pourvu que la requête ne soit pas construite dynamiquement, jugeant que SQL est déjà un langage de très haut niveau et que c'est acceptable.
Le débat s'élargit à SQL lui-même. L'un le juge horrible et se dit prêt à programmer dans un langage composable comme Helm, tandis qu'un autre réplique avec ironie qu'Evan a retiré Group By dans Helm et est parti acheter des cigarettes. S'y mêlent le purisme du langage, la lisibilité réelle sur de grosses requêtes et l'éternelle question de savoir si réinventer plutôt que réparer reste toujours la bonne voie.
Jourboïc est un index vectoriel écrit en Rust avec des bindings Python publiés sur GitHub sous Ryan Codray Jourboïc et construit sur l'algorithme TurboQuant de Google Research, un quantificateur data oblivious à distorsion quasi optimale. Le README revendique qu'un corpus de 10 millions de documents occupant 31 Go de RAM en float 32 tient en 4 gigas avec Jourboïc, avec une recherche plus rapide que FES. Les kernels SIND écrits à la main, Neon, SDOT, SMMLA sur ARM, AVX, SyntSense12, VNNI et VPERM sur x86 battraient FES Index PQ FASCAN dans chaque configuration mesurée, en moyenne 3,4 fatayant 4 bits et 23% en 2 bits sur les deux architectures. Le projet met en avant l'ingestion en ligne, sans entraînement, réglage ni reconstruction, des sauvegardes incrémentales, un filtrage à la recherche par AlloList, Diez ou MeetMake de slot et un fonctionnement 100% local sans service managé. Côté Python, pip install Jourboïc, puis TurboQuant index, add, search, write, load et sync avec des vecteurs et requêtes en tableau Flow 32 2D. La licence est MIT. Dans la discussion Hacker News, un commentateur s'enthousiasme pour ses 4 gigos pour 10 millions de documents.
Concrètement, ça change quoi ? Je crois que c'est le modèle de la Core Technology Fee qui est revu.
Exactement. Cette redevance par installation, qui concernait surtout les très gros développeurs, laisse place à une commission plus simple de 5% sur les transactions numériques des apps distribuées en dehors de l'App Store. Et chaque développeur qui distribue dans l'UE passe désormais sous un même ensemble de conditions unifiées.
C'est un vrai virage. Les gens peuvent signer dès aujourd'hui et ça entre en vigueur le 1er octobre.
Dans les commentaires, l'avis est loin d'être unanime. Certains disent qu'Apple commence enfin à céder et que la partie était perdue d'avance, avec beaucoup de temps et d'argent perdu en chemin.
Et d'autres vont beaucoup plus loin. Un commentateur raconte avoir vendu sa position Apple, en voyant l'entreprise comme un futur Nokia, freiné par son manque d'IA native. Mais plusieurs répondent que c'est même pas proche de se produire, en rappelant qu'Apple reste la meilleure de sa catégorie sur l'IA locale, notamment.
La discussion diverge aussi sur l'IA elle-même, avec des voix qui disent que les gens ne s'y intéressent pas vraiment, surtout si la fonctionnalité épuise la batterie. Le constat qui ressort, c'est que la pression réglementaire européenne a visiblement poussé Apple à repenser son modèle et maintenant il faudra voir si les développeurs suivent. Dans VRAM Management Part 2, publié le 17 août 2026 sur le blog GPU de Pixel Cluster, Nathalie Vock annonce que ses correctifs améliorant la gestion de la VRAM pour les jeux ont été fusionnés en amont et sont programmés pour Linux 7 mars. L'article soutient que, en théorie, manquer de VRAM devrait être un problème de performance et non de stabilité. Les pilotes peuvent surréserver la VRAM et en accorder autant que le pilote du noyau décide d'en faire tenir dans la mémoire physique du GPU. Quand un jeu demande plus de VRAM qu'il n'en existe, une partie est déplacée vers la RAM du CPU, dont l'accès passe par le bus PCI, plus lent et souvent limitant. Avec une connexion PCI 4.0.16, la bande passante d'un peu moins de 32 gigaétrons, environ 32, 2 MIO par milliseconde, signifie que pour un minimum de 30 images par seconde, le GPU ne peut accéder qu'à environ 1075,5 MIO de données évincées par image, au-delà de quoi tenir 30 FPS devient impossible. La mise en cache atténue le problème. En cas de cache hit, la latence est identique, que la mémoire soit sur CPU ou sur GPU. Sur RDNA3, des micro-benchmarks montrent que jusqu'à 6 ME de cache L2, les latences restent comparables. Pour la mémoire CPU, elle monte à environ 2400 cycles par accès, avec environ 7,3 fois la latence d'un hit Infinity Cache.
Je crois qu'on en a beaucoup parlé, c'est le système de reconnaissance faciale.
Oui, l'idée du brevet. C'est un système qui détecterait des personnes, les enregistrerait automatiquement, puis proposerait plus tard un montage des meilleurs moments. L'exemple donné dans le document, c'est un dîner où l'IA dirait quelque chose comme « J'ai généré quelques moments forts du dîner de ce soir, voulez-vous les voir ?» sans même demander l'autorisation d'enregistrer.
Et en toile de fond, les lunettes Meta ont cette réputation bien gênante de « lunettes de pervers » à cause des enregistrements discrets. Elles ont pourtant une LED censée signaler qu'on enregistre.
Oui, mais des gens la neutralisent carrément. Meta a donc publié des mises à jour qui bloquent la caméra si cette LED est couverte ou ne fonctionne plus. Et dans son communiqué, l'entreprise présente ça comme un avantage sur les smartphones, qui n'ont aucun indicateur équivalent selon elle. Sauf qu'un téléphone n'est pas constamment pointé vers les personnes qui t'entourent.
Et l'article souligne aussi qu'une future version des lunettes pourrait enregistrer sans ce témoin lumineux du tout.
Ça, c'est le point qui dérange le plus certains commentateurs. Il faut quand même relativiser. Le dépôt d'un brevet ne garantit pas que la fonctionnalité verra le jour. Mais c'est dans un contexte déjà chargé. Plus tôt cette année, Meta a été épinglé pour avoir envoyé à des travailleurs des extraits vidéo contenant des données sensibles. Bref, la question de savoir à quel point ces appareils peuvent observer sans consentement reste ouverte.
Sur Hacker News, le fil Python Polar Cheat Sheet renvoie à l'antisèche publié par Posit Open Source, issu d'un livre O'Reilly sur le sujet. Polar est une bibliothèque de transformation, d'analyse et de visualisation de données, avec une API DAFALRAM rapide et expressive, publiée pour la première fois par Richie Vink en 2020. L'antisèche, signée Jeroen Janssens et Thijs Nieuwdorp, couvre les structures de données, Series, DAFALRAM, LazyFrame, l'absence d'index de ligne contrairement à Panda, l'immutabilité et le chaînage de méthodes, les API Eager et Lazy avec prédicat et projection pushdown, le moteur streaming pour traiter hors mémoire des données plus grandes que la RAM, et des types de données s'appuyant sur Apache Arrow. En commentaire, Jeroen Janssens explique avoir passé les dernières semaines à compresser son livre de près de 500 pages en une antisèche de 2 pages. Une compression très lossy, espère-t-il, mais utile. Avec, outre le PDF, une version HTML accessible. Il demande quelles opérations Polar préférées manquent et recueille des retours sur l'organisation. Un commentateur demande s'il existe une version Markdown, un autre répond que la version HTML complète figure sous le bouton « Download PDF ».
C'est signé par Jeroen Janssens et Thijs Nieuwdorp, et l'auteur explique avoir passé ses dernières semaines sur cette compression, qu'il qualifie lui-même de très lossy, donc très imparfaite, mais espère-t-il utile. Polar. Pour rappel, c'est cette bibliothèque de transformation et d'analyse de données avec une API DAFALRAM rapide, publiée par Richie Vink en 2020.
Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette antisèche en 2 pages?
Les structures de données de base, les séries, les DAFALRAM, les LazyFrame, l'absence d'index de ligne, contrairement à Panda, l'immutabilité et le chaînage de méthodes, et surtout les deux moteurs, l'API Eager et l'API Lazy, avec le fameux Predicate Pushdown qui pousse les filtres le plus tôt possible, et le moteur streaming qui permet de traiter des données plus grandes que la RAM.
Et côté format, tout est bâti sur la spécification Apache Arrow.
Tout à fait. Il y a aussi une version HTML accessible en plus du PDF, ce qui intéressait certains commentateurs qui cherchaient une version exploitable. Et l'auteur demande d'ailleurs quelles opérations Polar préférées manquent à l'appel. Le calendrier est aussi à noter. La conférence POSI, CANF, est annoncée à Houston, au Texas, du 14 au 16 septembre. Une belle façon de rendre un gros ouvrage bien plus digeste.
Apple a annoncé, le 18 août, des modifications de ses conditions commerciales pour les applications dans l'Union européenne, à la suite d'une collaboration étroite avec la Commission européenne. Selon Apple, ces changements résolvent les désaccords concernant les conditions commerciales et la distribution alternative, en faisant passer chaque développeur distribuant des apps dans l'UE à un ensemble unique de conditions, signables dès aujourd'hui, avec une entrée en vigueur le 1er octobre. Apple facturera une commission sur la vente de biens et services numériques. La Core Technology Fee serait remplacée par la Core Technology Commission, une commission simple de 5% sur les transactions numériques des apps distribuées hors App Store. Dans la discussion Hacker News, les commentateurs divergent. MB Cook estime qu'Apple commence à céder, que la partie était perdue d'avance et que l'entreprise aurait pu économiser du temps et de l'argent. BRCM Throwaway affirme avoir vendu sa position Apple, voyant Ternus comme « le dernier CEO » et Apple comme un futur Nokia, pénalisé par son manque d'IA native. Slater juge cela même pas proche de se produire, tandis qu'un autre souligne qu'Apple est dans de nombreux cas la meilleure de sa catégorie pour l'IA locale. Humbly Toast rétorque que personne ne se soucie de l'IA ni d'une fonctionnalité qui épuise la batterie.
La promesse est spectaculaire. Le projet s'appuie sur l'algorithme TurboQuant de Google Research, décrit comme un quantificateur sans phase d'entraînement séparée, avec une distorsion quasi optimale. Et le README revendique qu'un corpus de 10 millions de documents occupant 31 Go de RAM en float 32 tient dans 4 Go avec TurboVec, avec une recherche plus rapide que FES.
4 fois moins de mémoire, c'est énorme. Et les performances tiennent, selon eux, à des kernels SIMD écrits à la main, avec du néon sur ARM et de l'AVX512 sur SIT86. Ils affirment battre la solution équivalente de FACE dans chaque configuration mesurée, en moyenne 3,4 fois plus vite en 4 bits et 23% en 2 bits.
Ce qui plaît aussi beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de phase d'entraînement du tout. On ingère en ligne sans réglage ni reconstruction de l'index. Les sauvegardes sont incrémentales, avec un seul F-Sync par appel et une sécurité en cas de crash, et les petites suppressions ou ajouts se font en quelques millisecondes, quelle que soit la taille de l'index.
Et côté vie privée, ça fonctionne 100% localement. Pas de service managé, pas de données qui quittent la machine ou le VPC.
En Python, c'est simple. On installe le paquet, on crée un index avec la dimension et la largeur de bits. Puis on ajoute, on recherche, on écrit et on charge. Un point d'attention, les vecteurs doivent être des tableaux float 32, les autres types étant rejetés. La licence est MIT. Et dans la discussion Hacker News, on note pas mal d'enthousiasme, notamment sur ce ratio de 4 gigabits pour 10 millions de documents. Un projet à suivre de près si vous gérez de gros corpus. Selon l'article de Privacy Guides relayé sur Hacker News, Meta a déposé un brevet pour un système Memory Recall qui détecterait des personnes via la reconnaissance faciale, les enregistrerait automatiquement et proposerait plus tard un best-of de ces moments. Les lunettes connectées Ray-Ban de Meta ont acquis une réputation de lunettes de pervers, avec de nombreux signalements d'enregistrement discrets. Elles comportent une LED blanche appelée Capture LED, censé clignoter pour signaler l'enregistrement, mais des gens la neutralisent. Meta a publié des mises à jour qui désactivent la caméra si la LED est couverte ou ne fonctionne pas, et la présentent comme supérieure aux smartphones, qui n'ont pas d'indicateur équivalent, alors que ceux-ci ne sont pas constamment pointés vers les personnes autour de soi. Une future version des lunettes pourrait enregistrer sans ce témoin lumineux. Le brevet décrirait un système qui scanne et identifie des personnes, puis les enregistre automatiquement, avec l'exemple d'un dîner où l'IA dirait « J'ai généré quelques moments forts du dîner de ce soir, voulez-vous les voir ?» Le dépôt d'un brevet ne signifie pas que la fonctionnalité verra le jour.
Et quand un jeu demande plus de RAM qu'il n'en existe, une partie de la mémoire est déplacée vers la RAM du CPU, accessible via le bus PCI, plus lent et souvent limitant en bande passante.
Oui, l'article chiffre, avec une connexion PCI 4.0 X16, on tourne autour de 32 Go par seconde. Pour maintenir au minimum 30 images par seconde, le GPU ne peut donc extraire qu'un peu plus d'un Go de données évincées par image. Au-delà, tenir les 30 FPS devient tout simplement impossible.
Mais il y a une atténuation importante, le cache. Si on touche dans le cache, la latence est identique, que la mémoire soit sur le CPU ou le GPU.
Exactement. Sur les cartes RDNA3, les micro-benchmarks montrent que jusqu'à la taille du cache L2 de 6 mémas, les latences restent comparables. Mais pour la mémoire CPU, elle grimpe à environ 2400 cycles par accès, presque 7,3 fois plus que lorsqu'on reste sur le GPU. L'enjeu pour les développeurs de jeux est donc d'optimiser le comportement du cache. Et justement, l'article annonce que des correctifs destinés à améliorer la gestion de la VRAM pour les jeux ont été fusionnés en amont et sont programmés pour Linux 7 mars. Une avancée réelle pour la stabilité des jeux gourmands en mémoire. The Register rapporte que Google a racheté pour 10 millions de dollars les données du transporteur américain en faillite Spirit. Spirit, déjà fragilisé par la pandémie en 2020, n'a jamais retrouvé l'équilibre financier, s'est cloué au sol définitivement en mai dernier, puis a été placé en liquidation et vend désormais ses actifs aux enchères. Un document judiciaire déposé la semaine dernière révèle que Google a remporté une immense base de données présentée comme dépersonnalisée, comprenant par exemple 100 millions d'emails, 500 millions d'éléments Microsoft Teams, plus de 30 millions d'appels enregistrés du service client et 13,5 millions d'adresses e-mail actives issues d'Oracle Responses. S'y ajoutent des données opérationnelles comme plus de 763 000 vols et 1 200 000 bons de carburant. Google aurait indiqué avoir acheté ces données pour améliorer ses services d'IA et a promis de les supprimer. Le second enchérisseur était Mercor, une société qui fournit des données pour entraîner des modèles d'IA. The Register rappelle que des experts doutent de la précision des grands modèles de langage et jugent parfois plus utiles des modèles plus petits entraînés sur des domaines spécifiques.
Et c'est Google qui a remporté le gros lot, 10 millions de dollars pour une immense base de données présentée comme dépersonnalisée. Le journaliste Simon Sharwood a eu accès aux documents judiciaires déposés la semaine dernière.
L'échelle est vertigineuse. On parle de 100 millions d'emails, 500 millions d'éléments Microsoft Teams, 17 millions de fichiers OneDrive, plus de 30 millions d'appels du service client enregistrés, et même les détails d'11 millions de ventes de Wi-Fi en vol.
S'ajoutent des données très opérationnelles. Plus de 763 000 vols, 5 millions d'appareillements d'équipage, 1 200 000 bons de carburant. Google aurait expliqué vouloir améliorer ses services d'IA. Le second enchérisseur était Mercor, spécialiste des données pour entraîner des modèles.
Le document affirme que les données ont bien été dépersonnalisées avant la vente, et Google a promis de supprimer les données personnelles. Mais The Register rappelle que certains experts doutent de la précision des grands modèles de langage et jugent parfois plus utiles des modèles plus petits, entraînés sur des domaines spécifiques.
Une chose est sûre, cette vente marque la fin définitionnelle de Spirit, dont tout l'historique opérationnel va alimenter les modèles d'IA de Google. Sur Hacker News, on suit le sauvetage spectaculaire d'un ordinateur portable framework à processeur AMD série 7040, considéré comme irrémédiablement bloqué ou bricked et dont le récit est publié sur le blog de Quantum 5. Leur réparation a demandé une vingtaine d'outils, et le fil de discussion s'élargit rapidement à des questions de garantie et de mise à jour. Un commentateur, Gonzalome, s'interroge ainsi, un peu hors sujet mais pertinent. Si installer un firmware personnalisé annule la garantie d'un appareil, installer les mises à jour officielles devrait en contrepartie l'étendre. Il se dit fatigué des mises à jour bâclées ou des changements de comportement qui perturbent l'usage de son propre appareil. Le récit de Quantum 5 illustre ce que des passionnés sont prêts à faire pour récupérer une machine que le fabricant aurait sans doute déclarée perdue, et pose la question du droit à la réparation face au logiciel verrouillé.
L'intrigue, c'est ce commentaire de Gonzalome qui résume un ras-le-bol très répandu. Si installer un firmware personnalisé annule la garantie d'un appareil, alors installer les mises à jour officielles devrait l'étendre. Beaucoup de gens en ont assez des mises à jour bâclées ou des changements de comportement qui perturbent l'usage qu'ils font de leur propre machine.
C'est ce paradoxe qui rend cette histoire de réparation si intéressante. On a ici quelqu'un qui est prêt à mobiliser 20 outils pour ramener son appareil à la vie, là où le fabricant l'aurait probablement laissé pour mort.
La discussion soulève une vraie question d'équilibre des droits. Qui possède au fond la machine que l'on a payée et qui doit supporter le coût d'une mise à jour officielle qui casse l'appareil? Le Fairphone Gen 6 Plus est lancé et officiellement disponible aux États-Unis, avec expédition vers tous les États, sauf l'Alaska et Hawaï, ainsi que des tarifs et une assistance locaux. Le nouveau modèle reprend le Fairphone Gen 6 avec des composants internes améliorés. Processeur Snapdragon 7S Gen 4, mémoire portée de 8Go à 12Go de RAM DDR5, la plus élevée jamais installée sur un Fairphone, et des lancements et bascules d'applications jusqu'à 24% plus rapides. Il embarque Android 16 dès la sortie de la boîte, avec la promesse de 6 mises à jour du système, un support logiciel garanti jusqu'en 2033 et une garantie pouvant atteindre 5 ans. Sont conservés le design modulaire à 12 pièces remplaçables par l'utilisateur, 256 Go de stockage extensible jusqu'à 2 taux par microSD et le triple capteur avec caméra principale Sony Lithia 700C de 50 MP. Mais sur Hacker News, la discussion se concentre surtout sur la compatibilité Verizon. Plusieurs commentateurs signalent que l'appareil ne prend pas en charge la bande LTE 13. La fréquence de couverture principale de l'opérateur.
C'est une évolution du modèle Gen 6 avec un processeur Snapdragon 7S Gen 4 et surtout 12 gigaoctets de RAM DDR5, la plus élevée jamais installée sur un Fairphone. Résultat, le lancement et les bascules d'application seraient jusqu'à 24% plus rapides.
Côté logiciel, il embarque Android 16 dès la sortie de la boîte, avec 6 mises à jour promises et un support logiciel garanti jusqu'en 2033. La garantie peut atteindre 5 ans. et on retrouve le design modulaire en 12 pièces remplaçables par l'utilisateur, les 256 gigaoctets extensibles par microSD jusqu'à 2 teraoctets et la caméra principale de 50 mégapixels.
Il y a aussi trois nouvelles couleurs, dont un cobalt blue exclusif, clin d'œil aux origines de Fairphone comme campagne de sensibilisation aux minéraux de conflit. Mais attention, la discussion sur Hacker News se concentre sur un point de friction majeur.
Oui, la compatibilité avec le réseau Verizon. Des utilisateurs déplorent son absence et la page des caractéristiques techniques indiquées Verizon pris en charge alors que la page de couverture des opérateurs dit le contraire. Selon la page de commande américaine, l'appareil ne prend pas en charge la bande LTE 13, qui est la fréquence de couverture principale de Verizon.
Donc, une promesse de longévité et de réparabilité louable, mais un point de compatibilité réseau qui risque de décevoir une partie des clients potentiels outre-Atlantique.
Une étude publiée dans la revue Penaas, présentée dans The Conversation par Weilong Zhang, s'appuie sur le rationnement du sucre au Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale, une expérience naturelle involontaire. Le rationnement a pris fin en septembre 1953 et la consommation de sucre a presque doublé. En s'appuyant sur des données portant sur plus de 64 000 personnes nées entre 1951 et 1956, les chercheurs ont constaté que les personnes ayant connu une plus longue période de rationnement au cours de leurs 1000 premiers jours ont eu une incidence plus faible de 5 cancers, sein, prostate, foie, rectum et poumon. L'effet le plus marqué concerne le cancer du foie, avec environ 69% de risque en moins, et le plus faible, le cancer du sein, avec 36% de risque en moins. L'étude associe aussi ce rationnement précoce à un vieillissement biologique plus lent, équivalent à environ 2,2 ans, mesuré par des télomères plus longs et des niveaux plus faibles de granzyme B. À l'âge d'environ 50 ans, ces personnes consommaient encore moins de sucre et avaient des régimes plus sains. Sur Hacker News, des commentateurs ont toutefois exprimé des réserves méthodologiques, jugeant notamment la description du rationnement trop simpliste et pointant d'autres changements d'alimentation et d'environnement.
Le rationnement a pris fin en septembre 1953 et la consommation de sucre a presque doublé ensuite. Les chercheurs ont utilisé les données de plus de 64 000 personnes nées entre 1950 et 1956, donc avant ou pendant cette période clé.
Les personnes ayant connu une plus longue période de rationnement du sucre au cours de leurs 1000 premiers jours, c'est-à-dire de la conception au deuxième anniversaire, ont eu une incidence plus faible de 5 cancers, le sein, la prostate, le foie, le rectum et le poumon. L'effet le plus marqué concerne le foie, avec environ 69% de risque en moins, et ces différences ne sont apparues que des décennies après la fin du rationnement.
Il y a aussi un lien avec un vieillissement biologique plus lent, équivalent à environ 2 ans et 2 mois, mesuré par des télomères plus longs. Et à environ 50 ans, ces personnes consommaient encore moins de sucre, mangeaient moins globalement, avec des régimes plus sains et plus diversifiés.
Sur Hacker News, les réserves méthodologiques ne manquent pas. Un commentateur juge la description du rationnement trop simpliste, en rappelant tous les autres changements d'alimentation, de stress et d'environnement de l'époque. Un autre demande comment l'étude isole vraiment l'effet du sucre parmi tant de variables.
C'est tout l'intérêt de ces études. Le lien est intrigant, mais il faut le lire comme une association, pas comme une preuve définitive de causalité. Une discussion Hacker News porte sur une étude de terrain consacrée aux effets des centres de données sur la température de l'air à l'échelle d'un quartier. L'étude attribue un réchauffement local à la chaleur fatale de ces centres en s'appuyant sur l'alignement cohérent du signal thermique avec la direction du vent dominant sur plusieurs sites et conditions météorologiques. Le commentateur Jeff B. conteste pourtant cette attribution. Ce signal pourrait aussi provenir de l'îlot de chaleur du parking des employés, dont le stationnement est obligatoire par la réglementation. La discussion s'élargit ensuite largement au zonage des grands centres de données. Certains relèvent généralement des zones industrielles ou commerciales lourdes, et n'ont pas besoin de permis spécial si le zonage convient, tandis que d'autres estiment que la situation de Phoenix relève surtout d'un mauvais zonage, le centre de données étant juste en face d'une zone résidentielle.
Mais un commentateur conteste vivement cette attribution. Selon lui, ce signal pourrait tout aussi bien venir de l'îlot de chaleur du parking des employés, dont le stationnement est d'ailleurs obligatoire par la réglementation. C'est un contre-argument crédible. Une grande surface goudronnée peut chauffer un quartier sans qu'un centre de données y soit pour quoi que ce soit.
La discussion bifurque ensuite vers le zonage urbain. Un participant rappelle que ces installations relèvent généralement des zones industrielles ou commerciales lourdes, et qu'elles n'ont pas besoin de permis spécial si le zonage convient. D'autres estiment que le zonage industriel réduit les espaces verts, ce qui aggrave l'effet d'îlot de chaleur.
Un commentateur voit dans le cas de Phoenix surtout un mauvais zonage, le centre de données étant juste en face d'une zone résidentielle. Un autre précise que le zonage est une compétence municipale ou de comté, et que les grands projets exigent souvent des ajustements particuliers.
Au fond, cette discussion montre que mesurer la chaleur dégagée par les centres de données, c'est une chose, mais décider où ils ont le droit d'être et à quelle distance des habitations, c'est un tout autre débat.
En 1971, bien avant les réseaux sociaux actuels, un ingénieur du Stanford Artificial Intelligence Laboratory posait déjà les bases de ce qui allait devenir le microblog. L'article d'Andros Fenollosa, Finger, The 1971 Social Network That Never Died, raconte que tout commence à Sile, la commande WHO listait illisiblement les utilisateurs connectés, et l'ingénieur Les Ernest, inspiré par les doigts courant le long de l'écran, écrivit un programme affichant nom réel, localisation et durée d'inactivité. Le protocole fut ensuite formalisé par Ken Hanstein dans le RFC 742 en 1977, puis dans le RFC 1288 en 1991. Finger fonctionnait sans compte, sans algorithme, sans serveur central, et son profil se réduisait à un seul fichier texte contrôlé par l'utilisateur, le plan. Destiné à un statut professionnel statique, ces fichiers, plan et project, furent détournés en poèmes, journaux intimes et artaski, ce qui conduit beaucoup de monde à y voir le premier microblog. John Carmack, dit Best Software, a tenu son plan de 1996 à 2010, y annonçant notamment, le 18 août 1997, la publication prochaine du code source de Doom. Vers 1982, des étudiants de Carnegie Mellon exposèrent par fingercoke@cmu.edu l'état du distributeur de Coca-Cola du département, l'un des premiers objets connectés. Le client reste préinstallé sur macOS et la plupart des systèmes Unix. L'article n'exclut d'ailleurs pas un retour du protocole.
En effet, à l'époque, une commande appelée Diablo Echo affichait la liste des personnes connectées, mais de manière illisible. L'ingénieur Les Ernest, inspiré par le geste de passer son doigt le long de l'écran, a alors écrit un programme montrant les noms, les localisations et la durée d'inactivité de chacun. Le protocole a été formalisé en 1977, puis révisé en 1991.
Ce qui est fascinant, c'est le profil. Pas de compte, pas d'algorithme, pas de serveur central, juste un fichier texte que l'utilisateur contrôle entièrement. Les fichiers plan et project étaient censés servir de statut professionnel, mais les gens les ont très vite détournés pour y écrire des poèmes, des journaux intimes ou de l'art ASCII. Beaucoup y voient le premier microblog.
Et le plus célèbre de ces profils, c'est celui de John Carmack, le créateur de Doom et de Quake. Il a tenu son plan pendant 14 ans, et c'est d'ailleurs là, en août 1997, qu'il a annoncé la publication prochaine du code source de Doom. Ses archives sont toujours conservées sur GitHub.
Plus surprenant encore, vers 1982, des étudiants de Carnegie Mellon utilisaient Finger pour consulter l'état du distributeur de Coca-Cola du département. Un des tout premiers objets connectés avant l'heure. Le client Finger reste d'ailleurs préinstallé sur macOS et sur la plupart des systèmes Unix et même disponible dans Emacs.
Et l'article n'exclut pas un retour du protocole. La discussion relève simplement qu'il n'a guère dépassé le monde des développeurs de jeux PC. Une technologie simple, contrôlée par l'utilisateur, qui n'a jamais vraiment disparu. Un projet photographique original propose de transformer le réseau ferroviaire en scanner à plat, une idée décrite dans un billet publié sur le site de Philo. Le principe, une caméra linéaire industrielle, pointée depuis un véhicule en mouvement, capture en continu une seule ligne verticale, et ces lignes sont assemblées pour former une image complète. L'auteur s'inscrit dans la lignée des dos de numérisation des années 1990, une approche encore moins chère que les grands capteurs pour les grands formats. Ses premiers essais, sur un canapé puis sur la ligne orange du MBTA, ont toutefois montré que les variations de vitesse déforment l'image. La caméra retenue est une Basler Rull 2048 19GM, conçue à l'origine pour les convoyeurs rapides. Le billet présente notamment une image en niveau de gris de 56 894 x 2048 pixels prise sur le ferry San Francisco-Oakland en février 2026, ainsi qu'une conférence donnée à l'EMF Game 2026. L'auteur cite parmi ses inspirations le projet Scanoramic, les expériences de John Eicherbiker et de Daniel Lawrence Lu, les plans films de Martin Lipscher et la construction de dos de numérisation de GigaWiff. Tim Jacobs, connu en ligne sous le nom de Michela, a également présenté à l'EMF Camp un travail sur les caméras à fente.
Le principe est élégant. La caméra, pointée depuis un véhicule en mouvement, capture en continu une seule ligne verticale. En assemblant toutes ces lignes les unes après les autres, on obtient une image complète et très large. Le billet présente par exemple une image en niveau de gris capturée sur le ferry entre San Francisco et Oakland en février. Et le projet a fait l'objet d'une conférence à l'EMF Camp.
L'auteur s'inscrit dans la lignée des dos de numérisation des années 1990, souvent repensée pour le grand format, une approche nettement moins chère que l'achat de très grands capteurs. Il cite d'ailleurs plusieurs inspirations, comme le projet Scanoramic ou les expériences de John Eicherbiker et de Daniel Lawrence Lu.
Bien sûr, tout ne s'est pas fait sans difficulté. Ces premiers essais, réalisés sur un canapé puis sur une ligne de métro, ont montré que les variations de vitesse déformaient l'image. La caméra retenue est finalement une base LER conçue à l'origine pour les convoyeurs rapides, ce qui en dit long sur le défi technique.
Et ce n'est pas un sujet isolé. Tim Jacobs, connu en ligne sous le nom de Michela, a présenté à l'EMF Camp un travail proche sur les caméras à fente, en parcourant toutes les positions de fente d'une vidéo pour créer des animations. Dans la discussion, on s'interroge d'ailleurs sur une éventuelle parenté avec un site japonais de photos de train de haute qualité. Une belle rencontre entre photographie, programmation et patrimoine ferroviaire.
Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et nous espérons que ces éclairages vous auront été utiles.
Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouveaux sujets. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.